13h30 à Paris, 14h30 à Kigali. Tout de suite, c'est Afrique Midi, présenté par Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer. Et à la une, la décision qui suscite l'interrogation en Guinée. L'ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara a été gracié. L'ancien dirigeant avait été condamné en juillet dernier à 20 ans de prison pour son rôle dans les massacres du stade de Conakry en septembre 2009. À la une également, coup d'envoi de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril au Gabon et ce premier grand meeting au stade de l'Amitié pour le chef de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema. Dans cette édition, nous reviendrons également sur la dérogation exceptionnelle de Washington pour reprendre le programme d'aide au développement du réseau électrique au Sénégal. Et puis les commémorations aujourd'hui à Madagascar du 78e anniversaire de l'insurrection de 1949-47. Reportage à suivre dans la fin de ce journal. En Guinée, Moussa Dadis Camara est donc gracié, lui qui fut à la tête de la junte ayant dirigé le pays entre 2008 et 2009 et qui fut également condamné l'an passé pour crime contre l'humanité pour avoir commandité le massacre d'opposants à l'époque dans le stade de Conakry. Moussa Dadis Camara bénéficie donc d'une grâce présidentielle à l'initiative du chef de la junte actuelle, le général Mamadi Doumbouya. Cette décision prise pour des raisons de santé suscite de nombreuses réactions en Guinée. Mukhtar Ba.
Au lendemain du pardon accordé par le général Doumbouya au bouillant capitaine Dadis Camara, cette grâce présidentielle est diversement interprétée en Guinée. C'est totalement incompréhensible, explique Mamadou Diouldé Camara, une victime du massacre au stade du 28 septembre où il a perdu son épouse. Alcéni Keita, autre victime, affirme pour sa part, nous ne souhaitons la mort pour personne, mais le général Mamadi Doumbouya devait attendre la fin de la procédure en cours puisque le procès en appel n'a toujours pas commencé. Quitte à l'évacuer en attendant en Europe ou aux États-Unis sous escorte policière. Du côté des proches du capitaine Dadis Camara, c'est la joie et le soulagement. Dieu a emprisonné, Dieu a libéré, déclare un membre de la famille, joint par RFI, qui salue l'humanisme du chef de l'État guinéen. Officiellement, la fragilité de son état de santé n'avait jamais été évoquée. Beaucoup s'interrogent, notamment l'opposition sur les motivations des autorités de la transition. Dadis Camara est issu de la région forestière où il reste encore populaire. Est-ce que le chef de l'État ne cherche pas à conquérir la sympathie d'une région marquée par la bousculade meurtrière du 7 décembre dernier? C'est un geste purement humanitaire, retorque une source du ministère de la Justice. Mukhtar Ba, Conakry, RFI.
Et ce midi, une question: comment réagissent les victimes du massacre du 28 septembre à cette grâce surprise? Écoutez la réaction de leur avocat, Maître Alpha Amadou Desba. Il est également président de l'OGDH. Lui n'écarte pas donc de saisir des juridictions internationales.
Nous ne sommes pas surpris de ce décret de grâce puisque depuis l'ouverture de ce procès, nous nous attendions à ce que de telles mesures soit prise pour conforter une certaine situation politique, mais nous sommes quand même déçus que cela intervienne avant même que la Cour d'appel ne se prononce sur le mérite du recours qui a été justement introduit par M. Moussa Dadis Camara.
Comment expliquez-vous cette décision?
Je pense qu'il y a la volonté de ménager à la fois les victimes et aussi les auteurs de ces crimes sous l'autel de la politique. Je pense que cela a dû servir de motif. Donc, c'est des motifs que nous ne comprenons pas. En fait, cela renvoie au fait qu'on est en train de vouloir marchander les indemnisations et en même temps, on garantit l'impunité à ceux qui ont commis ces crimes au stade du 28 septembre.
Est-ce que vous réfléchissez à des moyens de recours pour vous opposer à ces décisions?
Écoutez, nous sommes en train d'explorer toutes les possibilités. Peut-être pourrait-on envisager un recours devant la Cour suprême ou alors envisager d'autres pistes puisqu'il s'agit de crimes contre l'humanité puisque la Guinée avait été, on lui a fait confiance pour en tout cas juger cette affaire. Si dans l'exécution des décisions on se rend compte qu'elle n'est pas enclin à vouloir elle-même aller jusqu'au bout, il n'y a pas de raison qu'on ne saisisse pas d'autres instances internationales.
À des propos recueillis au micro RFI de Pierre Firsion. Lancement ce samedi de la campagne électorale au Gabon avec un grand meeting aujourd'hui de Brice Clotaire-Oligui Nguema. Le rassemblement va débuter d'un instant à l'autre. Des milliers de personnes sont rassemblées au stade de l'Amitié au nord de la capitale. Le chef de la transition est donc l'un des 8 candidats en lice pour la présidentielle du 12 avril. Et lors des 2 semaines de campagne qui arrivent, les adversaires de Oligui Nguema vont tenter de sortir de l'ombre. François Mazet.
La campagne Oligingema promet plusieurs dizaines de milliers de personnes, gradins et pelouses remplies. Une démonstration de force autour d'un candidat qui a obtenu le ralliement de la quasi-totalité des forces politiques. Caciques du pouvoir déchu, anciens opposants et grandes voix de la société civile ont rejoint les plateformes et associations de soutien qui ont fleuri dans le pays. Pour toutes les chapeautées, le rassemblement des bâtisseurs a été créé, sa direction confiée à Ange-Kevin Zigou. Mais derrière la figure du renouvellement qu'est cet avocat connu pour son engagement contre l'ancien régime, les coordinations régionales ont un air de déjà-vu, intégrant de nombreux cadres de l'ex-parti au pouvoir. Une sorte d'état PDG sans le PDG, commente un des derniers convertis. Face au rouleau compresseur, Alain-Claude Bilibinzé ne retient pas ses coups contre la transition qu'il accuse de tromperie et de gaspillage des ressources. Il espère capitaliser sur les frustrations du quotidien, comme les délestages ou les mouvements sociaux, pour faire oublier son image de pilier de l'époque Ali Bongo. Jusque-là, les 6 autres candidats doivent se contenter des miettes. En termes de visibilité, ils ont 2 semaines pour tenter de se faire connaître et entendre de leurs compatriotes.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe armé AFC M23 a signé hier à Goma un accord avec la SADC sur le cessez-le-feu et l'évacuation de la force militaire Sami RDC déployée à Goma. À la mi-mars déjà, la SADC avait mis fin au mandat de sa force régionale déployée depuis décembre 2023 dans l'est de la RDC. Lisa Fabian.
La signature de l'accord a eu lieu à l'hôtel Serena en présence de hauts gradés du Malawi, de Zambie, de Tanzanie et d'Afrique du Sud. Face à eux, le général-major Makenga Sultani menait la délégation de l'AFC M23. Parmi les résolutions, un cessez-le-feu et le retrait immédiat et sans condition des forces de la SADC présentes à Goma ont été décidés. Le communiqué final indique que ces militaires rentreront dans leur pays via l'aéroport international avec leurs armes et leurs équipements. Un comité conjoint chargé d'évaluer l'état de l'aéroport a été mis sur pied alors que la SADC s'est engagée à participer à la réparation des infrastructures. Ces travaux pourraient débuter d'ici une semaine pour accélérer les choses, selon l'AFC M23. Le chef d'état-major de l'armée sud-africaine a profité de ce déplacement pour visiter les troupes de la SAMI RDC dans leur base autour de Goma. Fin février, le M23 avait déjà permis l'évacuation de soldats de la SADC grièvement blessés lors de l'offensive sur Goma, dans laquelle 14 soldats sud-africains ont perdu la vie.
Nouakchott et Bamako cherchent à faire retomber la tension depuis plusieurs semaines. La Mauritanie mène en effet une grande campagne d'expulsion de migrants subsahariens en situation irrégulière, une opération qui fait grincer des dents les autorités maliennes. Alors pour apaiser les relations avec son voisin, le chef de la diplomatie malienne s'est rendu à Nouakchott où il a été reçu par le président mauritanien. Les détails de cette visite avec notre correspondant régional Serge Daniel.
Premier message aux autorités mauritaniennes, le Mali n'a pas apprécié les conditions dans lesquelles environ 1800 de ses ressortissants en situation irrégulière vivant en Mauritanie ont été refoulés vers leur pays. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, devant la presse à Nouakchott.
Ce que nous avons, au nom du président, transmis à son frère, c'est la nécessité, lors de ces opérations de refoulement, de veiller à ce que ça se fasse dans les conditions qui respectent la dignité, en tout cas, qui est un traitement humain.
Les deux parties ont décidé de jouer la carte de l'apaisement. L'ambassade du Mali en Mauritanie sera désormais associée de près au processus de refoulement. Identité des migrants maliens, leur protection juridique et de possibles recours à formuler. L'ambassade a également obtenu le feu vert pour désormais rendre visite aux Maliens en situation irrégulière détenus sur le territoire mauritanien, ce qui n'était pas le cas juste là. Le Mali a pu obtenir également, pour certains de ses ressortissants sans papier, le nombre n'est pas précisé, des facilités de régularisation. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Comment prévenir l'extrémisme violent et les conflits communautaires dans les zones en proie aux attaques de bandes armées et au terrorisme, et ce notamment dans les pays voisins du Bénin, du Togo et du Burkina Faso? Eh bien, une soixantaine d'agents de système d'alerte et de prévention des trois pays ont échangé jeudi et vendredi à Palimbé, dans une ville située au nord-ouest de la capitale togolaise. Peter Sassou Dogbé nous raconte les détails de ces discussions.
La menace de l'extrémisme violent nécessite un partage de l'information pour la prévenir, selon Louis Topanou, contrôleur général de police au Bénin.
Lorsque dans un pays voisin, des signes de présence ou des comportements sont signalés, pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets dans les pays voisins, le partage rapide de ces alertes pourrait permettre une meilleure prévention.
Dans les zones transfrontalières, un conflit qui naît dans une communauté est vite ressenti. De l'autre côté, explique Korotimi Wangré, la secrétaire permanente de l'Observatoire de gestion des conflits au Burkina Faso.
Pour dire que nous, en réalité, il s'agit juste des lignes qui ont été tracées, mais les communautés, en réalité, n'arrivent pas vraiment à faire cette scission-là de ces lignes.
Le Togo, pays hôte de cette rencontre, suggère une approche globale et pas seulement militaire, affirme le lieutenant-colonel Labanté Likabou, représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Aux réactions purement militaires et sécuritaires, qui restent largement prioritaires dans les politiques des États africains, dit-il, se sont peu à peu ajoutées des approches intégrant les acteurs politiques et civils à l'action des forces de défense et de sécurité. Fin de citation. La rencontre a pris fin hier vendredi avec un rapport et une série de recommandations. Peter Sassou Doué, de retour de Palimé RFI.
RFI midi 41 à Dakar, le Sénégal finalement partiellement épargné par Donald Trump. Après l'annonce du gel de l'aide américaine, une dérogation exceptionnelle est accordée au projet Sénégal Power Compact. Cette décision inattendue soulage les autorités sénégalaises. Il faut dire, Juliette Dubois, que le Sénégal Power Compact est un programme essentiel pour le développement de l'accès universel à l'électricité dans le pays.
Le département d'État américain a accordé le 18 mars une dérogation exceptionnelle pour la reprise du projet Sénégal Power Compact sur demande du ministère de l'économie sénégalais. Ce projet d'ampleur lancé en 2021 pour 5 ans vient en soutien à l'objectif d'accès universel à l'électricité dans le pays avec une enveloppe totale de 600 millions de dollars, soit plus de 550 millions d'euros. On y trouve le développement d'un réseau haute tension autour de Dakar ou encore l'amélioration de l'accès à l'électricité en zone rurale. Plus de 12 millions de Sénégalais dans tout le pays sont touchés par ce projet qui était entré dans sa dernière phase en juillet dernier. Il avait été mis à l'arrêt début février brutalement par l'administration Trump, comme le reste des programmes d'aide humanitaire. Ce gel de l'aide américaine pour 90 jours a causé la stupéfaction dans de nombreux pays, y compris au Sénégal. Les États-Unis y finançaient également des projets de soutien au processus de paix en Casamance, ainsi que liés au VIH. Cette dérogation est donc une bonne nouvelle au moment où le pays est dans une situation financière particulièrement alarmante, avec un déficit et une dette bien supérieurs à ce qui avait été annoncé par l'administration précédente. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Madagascar se replonge aujourd'hui dans sa douloureuse histoire coloniale. Il y a 78 ans, jour pour jour, des insurgés malgaches se soulevaient contre les troupes coloniales françaises à Mouramang, à une centaine de kilomètres de la capitale. La révolte s'est ensuite emparée tout le long de la côte est de l'île et s'ensuivent les déploiements de 18 000 soldats français et de 21 mois de répression. Aujourd'hui, les habitants de la capitale de Madagascar célèbrent eux aussi ceux qui sont tombés en 1947. Le reportage de Pauline Le Troquier.
Le 29 mars, nos ancêtres étaient morts à cause des Français quand on a fait la guerre.
C'est avec ces mots que Miarn, 10 ans, résume l'histoire de mars 47. Son école, située à Ambudzatouv, en plein cœur de la capitale, donne directement sur la stèle commémorative de l'insurrection. Mais à la différence de ses camarades, ce jeune garçon connaît bien le symbole de ce monument. Lui a été bercé par le récit familial des événements.
Mon arrière-arrière-grand-père, il a fait la guerre et il est mort. C'était ma grand-mère qui m'a raconté cette histoire. Chaque 29 mars, on vient dans sa tombe pour célébrer sa mémoire et dire qu'il le donne au cœur.
Chaque année, le 29 mars est décrété férié et chômé dans le pays. À la télévision et à la radio, des chansons célèbrent l'héroïsme des combattants malgaches. De quoi réveiller un sentiment de patriotisme légitime et nécessaire pour Vloul. Mais cette passante pointe une récupération politique de la classe dirigeante.
Cet événement est utilisé par les politiciens pour prouver qu'ils sont patriotes, alors que selon moi, ils ne le sont pas vraiment. Quand on voit la situation dans laquelle se trouve le peuple, je pense que la classe politique fait plus attention au paraître qu'au bien du peuple.
Ces événements représentent dans la mémoire collective l'un des épisodes les plus douloureux de la colonisation de l'île. Sans présenter d'excuses officielles, l'ancien président français François Hollande avait reconnu en 2016 les crimes commis par la France. À l'époque, la répression coloniale avait fait entre 12 000 et 23 000 victimes, selon les historiens. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Une étoile montante du taekwondo ivoirien à l'honneur pour refermer cette première partie d'Afrique Midi. Auréolé de l'or à l'Open de Belgique dans la catégorie des plus de 68 kilos, Kimi Lorraine Hossin se fait un nom sur le circuit international. Son portrait avec Yuen Gorlet.
Avec son 1m90, ses coups déjà très puissants et ses nombreuses victoires, Kimi Lorenzo ne passe pas inaperçu sur un tatami. Née à Turin en Italie, elle vit avec ses parents ivoiriens dans la ville d'Alessandria et a déjà un palmarès très impressionnant. Depuis 2021, celle qui évolue dans la catégorie des plus de 68 kilos a remporté 17 médailles internationales, dont 13 en or. Décrite par certains comme une virtuose du taekwondo, la jeune championne de bientôt 17 ans, interrogée au téléphone, garde pourtant la tête sur les épaules.
Je ne sais pas si je suis au... pourrait devenir une championne, mais je suis certaine que je vais tout faire pour m'entraîner pour le devenir. Et je me rappelle que quand j'étais petite, mes entraîneurs me faisaient voir des vidéos de Ruth Bagby et moi je disais toujours que je voulais devenir comme elle.
Ruth Bagby justement est aujourd'hui une proche de la jeune athlète. La double championne du monde et double médaillée de bronze olympique est impressionnée par le potentiel de celle qui pourrait un jour suivre ses traces.
Elle fait des résultats vraiment impressionnants et puis elle a la rage de vaincre. C'est très important de pouvoir aller chercher les victoires. Si elle continue ainsi, elle sera une légende du taekwondo ivoirien.
Kimi Lorenzo est scrutée de près en Côte d'Ivoire. Le taekwondo est le deuxième sport le plus important du pays après le football et son potentiel est tel qu'elle pourrait participer au championnat du monde senior en Chine en octobre prochain et vise déjà les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
RFI, midi 46 à Abidjan et en temps universel.
Afrique Midi, Simon Bourtembourg.
Et à suivre la une de Jeune Afrique où il sera question des suites du massacre de civils peuls à Solenzo dans l'ouest du Burkina Faso. Dans quelques minutes, rendez-vous avec Jean-Baptiste Placa. Nous reviendrons sur la tournée décriée d'un membre du Congrès américain dans la région des Grands Lacs. Et puis, un mot, une histoire à suivre également. Lucie Bouteloup reçoit aujourd'hui une romancière franco-iranienne. La une de Jeune Afrique, François Soudan, est au micro d'Amélie Beaucourt.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Amélie.
Les images chocs de ce massacre qui ont largement circulé sont selon vous irréfutables.
Tout à fait. Les vidéos insoutenables que nous avons évidemment checkées, vérifiées de ces massacres commis les 10 et 11 mars dans une zone rurale de la province des Banois à l'ouest du Burkina Faso, vidéos filmées par leurs auteurs eux-mêmes qui les considèrent manifestement comme des exploits, sont de toute évidence authentiques et les autorités burkinabées qui parlent de vidéos truquées sont bien en peine de démontrer le contraire. On y voit des miliciens VDP relevant de deux unités clairement identifiables sur les images, le groupe d'autodéfense de Mawana et la force rapide de Kuka s'en prendre jusqu'à les massacrer à des familles entières de civils peuls. Nous sommes ici dans la région de la boucle du Moun, frontalière avec le Mali, qui est l'une des régions les plus frappées par le terrorisme au Burkina. Il s'agit très vraisemblablement d'une opération de ratissage anti-djihadiste qui, une fois de plus, a dérapé en exaction contre des populations suspectées de collaborer avec l'ennemi. À noter, Amélie, que ces miliciens VDP étaient censés être contrôlés, encadrés dans cette région par le 18e bataillon d'intervention rapide de l'armée burkinabé, lequel manifestement n'est pas intervenu. On dénombre au minimum 58 victimes.
Quelle a été, François, la réaction des autorités burkinabées après la diffusion de ces vidéos ?
Alors, face à l'émotion suscitée par ces images, une double réaction. La première, qui est censée aller dans le sens de l'apaisement, à usage autant externe qu'interne d'ailleurs, a été le 20 mars, l'ouverture d'une enquête judiciaire, non pas sur le massacre de la région de Solenzo lui-même, qui demeure tabou, comme les autres, mais à l'encontre de ceux qui, à travers leur profil ou leur page Facebook, partagent ce type de vidéos en les accompagnant de messages quasiment génocidaires, appelant à l'extermination des Peuls via les opérations dites « zéro Peul ». La seconde réaction, elle émane du capitaine Ibrahim Traoré lui-même, à l'occasion d'un discours prononcé le 22 mars à Zignaré, sous la forme d'une sorte de cadrage idéologique. Pour lui, le Burkina est la cible d'une guerre de communication menée, je cite, par des médias impérialistes mensongers qui cherchent à diviser et à manipuler les Burkinabés. Et il conclut, le capitaine Traoré, si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. Alors, une menace, clairement, rapidement suivie des faits, puisque on sait, 5 membres de l'ONG Sens qui avaient dénoncé le massacre des Banois ont été kidnappés en plein Ouagadougou par des agents des services de sécurité, suivis quelques jours plus tard, Amélie, par deux journalistes qui avaient eu l'audace de critiquer la caporalisation des médias d'État.
Est-ce qu'on peut parler de ciblage de la communauté Peul par les forces de défense et de sécurité ?
Alors, il n'y a aucune déclaration officielle des autorités burkinabées allant dans ce sens, dans le sens d'un ethnocide, je crois qu'il faut le dire. Mais on ne peut que constater une forte tendance à cibler cette minorité, qui représente entre 7 et 8% de la population, dans les actions de ratissage, de répression antiterroriste, un phénomène que l'on retrouve, quoi qu'à un degré moindre, au Mali, où une milice comme Dana Mbasougou a, tout comme les Burkinabés et les VDP, été recrutée sur une base qui est essentiellement communautaire. Alors bien sûr, C'est un cercle vicieux, puisque les djihadistes profitent très cyniquement de chaque exaction pour recruter massivement des combattants et des cadres intermédiaires au sein d'une population peul, qu'un narratif aussi répandu que toxique à travers le Sahel présente comme une sorte de cinquième colonne transhumant à travers des frontières poreuses. C'est cet amalgame dangereux entre peul et djihad que dénonce dans nos colonnes le chercheur Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Amélie.
Des articles sur le massacre de civils peul à Solenzo au Burkina Faso à retrouver sur le site jeuneafrique.com. François Soudan, merci.
Merci Amélie.
Et cet entretien mené donc par Amélie Boncourt et lui à réécouter sur RFI Pure Radio. Nous revenons à présent sur la tournée de Ronnie Jackson dans la région des Grands Lacs. Ce membre du Congrès américain a dressé un état des lieux décrié sur la situation dans l'est de la RDC. Son regard donc est controversé par certains. Mais Jean-Baptiste Placa, les constats que l'élu américain fait, est-ce qu'ils ne reflètent pas en fait une part de vérité ?
Il serait difficile de lui donner tort lorsqu'il dépeint l'Est de la RDC comme la caricature du Far West, avec toute la charge que porte dans l'imaginaire collectif cette métonymie. Au XIXe siècle, le Far West américain se distinguait en effet par la loi du plus fort et plus personne n'y reconnaissait les règles communes. Et il a raison d'insister sur l'incapacité du gouvernement de Kinshasa à contrôler la région par manque de ressources. On a du mal à le contredire, même lorsqu'il pointe du doigt la corruption, l'enrichissement de certains membres du gouvernement et de leurs familles, pendant que la population survit péniblement. Quant à la responsabilité des pays voisins, Ouganda, Rwanda et Burundi, elle n'est pas contestable. Il les accuse, doux euphémisme, d'importer des minerais de l'est du Congo. Certaines de ses propositions sont par contre déroutantes. D'aucuns pourraient lui reprocher de reprendre à son compte l'argumentation des soutiens de la rébellion quand il explique leur guerre par ce qu'ils considèrent comme un déficit d'inclusion par rapport à la citoyenneté congolaise des communautés rwandophones auxquels sont d'ordinaire associés les rebelles du M23. Et l'idée d'intégrer les rebelles à l'armée nationale pourrait choquer au regard de ce qui a déjà été fait dans ce sens en vain.
Pourquoi Jean-Baptiste alors donner une telle importance à ces propositions ?
Parce que Ronnie Jackson passe pour être très proche de Donald Trump et sa perception pourrait s'imposer comme la politique congolaise des États-Unis. D'autant que sa vision et son insistance sur les difficultés pour les entreprises américaines qui voudraient s'implanter en RDC semblent conditionnées par cette forme d'avidité qui règne à Washington pour certains minerais stratégiques. Comme si l'essentiel au fond était de reproduire en RDC ce que les États-Unis tentent d'obtenir avec l'Ukraine en échange de la paix. À ce prix, les rapports de son pays avec la RDC pourraient déboucher sur ce que l'on qualifiait jadis de pacte colonial et qui consistait pour les nations colonisées à alimenter en matières premières les industries de la métropole. Ce serait inquiétant car cette répartition du travail fige les pays africains dans le sous-développement comme dans un piège sans fin. Mais s'il y a faute, elle incombe d'abord aux Africains eux-mêmes qui oublient de s'industrialiser, se contentant d'engranger les royalties pour fournir aux autres de quoi faire tourner leurs industries. Imaginez qu'un coffret d'un kilogramme de chocolat chez un des meilleurs chocolatiers mondiaux peut coûter en Occident jusqu'à 64 fois le prix du kilogramme de fèves de cacao payé aux producteurs africains. L'on retrouve plus ou moins la même échelle de déséquilibre pour tout ce qu'exporte brut l'Afrique. Café, coton, karité, bois, etc. La Chine doit largement sa richesse actuelle à la transformation des matières premières qu'elle importe d'Afrique.
Et pourquoi alors l'Afrique se cantonne-t-elle dans ce rôle ?
Déficit de leadership et d'audace. Les rares nations africaines qui s'en sortent sont celles qui savent prendre leur part dans la transformation de leurs matières premières. Si la RDC regorge de minerais essentiels pour les batteries d'ordinateurs, téléphones portables et autres véhicules non polluants, pourquoi donc n'exigerait-elle pas qu'au moins une des premières transformations nécessaires se fasse sur son sol ? C'est ce que font par exemple les Botswanais avec le diamant. Anvers, en Belgique, demeure certes la ville la plus prestigieuse du monde pour ce qui est de la taille du diamant. Mais sur ce marché, Gaborone, capitale du Botswana, où se situe la plus grande mine de diamants à ciel ouvert au monde, est loin d'être négligeable. Ainsi, grâce au leadership visionnaire de ses dirigeants, ce pays abrite les implantations de prestigieuses entreprises internationales, Hyundai, Saab Miller, Daewoo, Volvo, Siemens. Que tombe la pluie, dit la devise du Botswana. Mais pour qu'elle tombe effectivement, les Africains devraient s'interroger, se remettre en cause, plutôt que de compter sur la bonté de ceux qui prospèrent sur leur indolence.
Jean-Baptiste Placa, à réécouter et à lire quand vous le voulez sur notre site et notre application. Place à présent à la chronique des amoureux de la langue française. Et ce samedi, Lucie Bouteloup reçoit une romancière franco-iranienne.
C'est un mot double qui est intriguant, qui est très étrange, qui change presque à chaque fois de forme. C'est une sorte de sujet de quête pour moi.
Sorour Kasmaï est née à Téhéran. Mais elle a fui l'Iran après la Révolution pour s'installer en France, où elle vit depuis plus de 40 ans. À côté de ses activités de traductrice, elle publie 4 romans et fonde la collection Horizon Persan aux éditions Actes Sud. Et comme c'est une femme engagée, notamment auprès de celles qui s'insurgent contre l'oppression qu'elles subissent de la part du gouvernement iranien, elle a publié en 2023 l'ouvrage « Femmes, rêves, liberté » en écho au mouvement « Femmes, vie, liberté ». Et pour cet épisode, elle a choisi de nous parler d'un mot existentiel.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Je vais vous parler d'un mot qui m'a toujours intriguée, c'est le mot « être », qui est un verbe, mais qui est aussi un substantif. Et donc, il a plusieurs aspects. Le verbe « être » est un verbe d'état qui relie l'attribut au sujet. Mais c'est un verbe, on ne peut plus irrégulier. « Je suis, mais tu es. Nous sommes, mais vous êtes. » Et au passé et au futur aussi sont différentes. Je fus alors que je serai. Peut-être c'est une façon d'exprimer l'idée que chacun a sa façon d'être dans le temps. Et puis il y a cette forme à la troisième personne du singulier, et, EST, qui est commune aux persans, aux français et aux russes, mes trois langues. En passant une petite remarque, le verbe être ne se conjugue pas en russe au présent. On ne peut qu'être qu'au futur et au passé. Et donc, tous ces aspects m'ont toujours intriguée par rapport à cette façon que la langue prévoit pour son locuteur ou locutrice que je suis d'être.
Être, c'est aussi exister, c'est vivre.
C'est l'être, ce qui nous ramène au substantif, c'est-à-dire prendre conscience de son être profond, le façonner malgré les obstacles qui sont la culture, les coutumes, les traditions, les croyances, qui vous obligent d'être celle-ci ou celle-là et qui vous empêchent d'être celle que vous voudriez être. Et donc c'est une voie, une sorte de voie mystique presque, pour arriver à toucher vraiment cet être profond qui est quelque part en nous, la faire révéler si vous voulez. Et l'être n'est jamais figé. L'être a un rapport dialectique avec le temps, avec le devenir. Dès que vous êtes quelqu'un, que vous prenez conscience de l'être, vous êtes déjà quelqu'un d'autre. Être femme, être exilée, être écrivain.
Selon le dictionnaire Le Petit Robert, être désigne à la fois un verbe intransitif, c'est avoir une réalité, exister, mais c'est aussi un nom qui désigne ce qui est vivant, animé ou encore l'âme, la conscience de quelqu'un.
C'était un mot, une histoire.
Et Lucie Bouteloup pour refermer donc cette édition d'Afrique Midi. Édition réalisée par Philippe Rendrianan Tenaina. Karine Franck était de son côté à la rédaction en chef avec Pierre Vallée. Dans un instant, un nouveau journal consacré à l'actualité internationale. Votre prochain rendez-vous cette fois avec l'actualité africaine. Ce sera la première édition d'Afrique Soir que vous pouvez retrouver sur RFI dès 18h30 temps universel. D'ici là, à rester bien à l'écoute de la Radio du Monde.
Salut, c'est Assalfo. Et revoilà le FEMIA. La 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo vous attend du 15 au 20 avril prochain à Abidjan et Daloa sous le thème civisme et sécurité routière. Cette année, vous aurez Angélique Kidjo, Caris, Smarty, Takana Zion, José, Imra et plein d'autres artistes pour mettre l'ambiance. Le FEMIA, c'est aussi le volet social avec l'inauguration des écoles primaires Magic System de Badika, Jacquesville et San Pedro.
En partenariat avec RFI. Anoumambo
est béni. C'est ça qui est la vérité.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Le saviez-vous ? Le 1er juin 1957, toutes les universités du monde se retrouvent dans la ville de Caen, détruite par les bombardements alliés, pour inaugurer le premier campus de France. Un événement international pour célébrer la paix, la connaissance et la reconstruction des villes sacrifiées de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Tout à l'heure, à partir de 14h10 TU.
RFI.